VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Abdourahmane Dia et Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 30 décembre. À la une ce soir.
En République démocratique du Congo, des obstacles subsistent dans les négociations pour un accord de sortie de crise.
159 migrants maliens rapatriés de Libye racontent leur expérience.
Dans le nord du Cameroun, l'armée annonce avoir saisi une importante cargaison d'armes de guerre lors d'une opération contre les rebelles centrafricains.
La Russie dit qu'elle n'expulsera personne après les sanctions annoncées jeudi par le président Obama.
Et puis nous aurons les pages sport et économie dans moins de 10 minutes, mais tout de suite, le journal.
En République démocratique du Congo, l'avenir politique du pays est suspendu au dialogue sous la médiation des évêques catholiques. Ces derniers ont annoncé que ce vendredi était leur dernier jour de médiation. Les signataires et les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine n'arrivent toujours pas à s'entendre sur certains points essentiels, dont la primature. La plénière qui devait sanctionner la fin des travaux, initialement prévue en ce début d'après-midi, a été renvoyée à 20h heure de Kinshasa. Retour sur cette dernière journée de discussion avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il ne reste qu'un point de blocage, la question de la primature annoncée à la presse Monseigneur Fridolin Ambongo, membre de la CENCO, qui rassure par ailleurs qu'un accord est toujours possible, alors que les protagonistes, notamment du rassemblement, prédisaient un échec des pourparlers. Quelle ne fut pas la surprise des journalistes d'assister à l'arrivée au centre interdiocésain à Kinshasa des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo pour la cérémonie de signature de l'accord a dit à Top Congo FM l'un d'entre eux. Après une ultime réunion en bilatéral entre des délégués en format 8+8, c'est-à-dire 8 de la Cité de l'Union africaine et 8 du Rassemblement, avaient même commencé à adopter article par article le texte du compromis. Puis, il y a eu ce report. S'ils ne se mettent pas d'accord aujourd'hui, ils n'y arriveront jamais. Demain, on rentre dans nos diocèses, a prévenu un évêque qui reconnaît qu'il y a des cas qui peuvent être réglés avant la signature de l'accord et d'autres par le futur gouvernement, notamment celui de Moïse Katumbi. Depuis plusieurs jours, les négociations bloquées, notamment sur la décrispation du climat politique avec la libération exigée par le rassemblement de certains prisonniers exilés politiques, la gestion des institutions pendant la transition et la refonte de la Commission électorale nationale indépendante. C'est donc la plénière de tout à l'heure à 20h qui va décider de l'avenir de la RDC. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En restant en République démocratique du Congo, où 2 soldats et 3 miliciens Maïmaï ont été tués aujourd'hui dans une attaque contre une position de l'armée dans l'est du pays, a-t-on appris de sources officielles. Les autorités précisent que les miliciens cherchaient à récupérer les armes et munitions dans les dépôts de l'état-major de l'armée.
Au Cameroun, l'armée affirme avoir saisi une importante cargaison d'armes de guerre lors d'une opération contre les rebelles centrafricains qui se livrent à des attaques dans la partie septentrionale du pays. Les précisions tout de suite de Timothée Donangmaï.
Le gouverneur de la région camerounaise de l'Adamawa, Kildadi Tagieke Boukar, a présenté à Ngaoundéré les armes saisies, notamment des fusils et des tas de munitions. Il a fait état de plusieurs assaillants tués ou arrêtés, précisant que d'autres se sont enfuis en territoire centrafricain. Selon M. Boukar, les hommes armés venant de la République centrafricaine lancent régulièrement des attaques au Cameroun depuis 3 mois. Ils enlèvent des éleveurs et des commerçants pour les échanger contre rançon, de même qu'ils pillent les récoltes des paysans locaux, a précisé le gouverneur de l'Adamawa, ajoutant que ces rebelles se replient au Cameroun lorsqu'ils sont confrontés aux opérations des troupes onusiennes dans leur pays. Kildadi Tagieke Boukar a révélé en outre que plusieurs otages ont été libérés par les forces camerounaises qui ont aussi saisi de la drogue qu'utilisent les rebelles. Pour l'heure, on ignore si ces derniers appartiennent à un groupe armé spécifique.
Le président Pierre Nkurunziza a menacé aujourd'hui de retirer en janvier les 5400 soldats burundais déployés en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine AMISOM, en cause les 11 mois de retard de paiement de leur salaire. Selon l'AFP, l'Union européenne qui finance les salaires des soldats entend les payer directement à ces soldats pour éviter tout détournement.
Le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore a exclu à Ouagadougou toute idée de rencontre à Abidjan avec l'ex-président déchu Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute fin octobre 2014. Si nous devons parler, c'est au Burkina Faso, parce que c'est là qu'est notre pays, a estimé M. Kabore.
Et en Côte d'Ivoire, c'est finalement un indépendant qui a remporté le dernier siège du Parlement. Le vote avait été repris jeudi dans la circonscription de Guiglo, où deux candidats étaient arrivés ex aequo après le scrutin du 18 décembre dernier. Cette victoire porte à 76 le nombre d'indépendants au Parlement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à l'actualité internationale à présent, et on commence avec le président Vladimir Poutine qui a créé la surprise aujourd'hui en décidant de n'expulser personne en réponse à l'expulsion par Washington de 35 agents russes après des accusations américaines d'ingérence de Moscou dans la présidentielle ici aux États-Unis. John Lydon.
Alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov venait de proposer de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Moscou et 4 diplomates du consulat général américain à Saint-Pétersbourg, M. Poutine a joué la carte de l'apaisement en assurant que la Russie ne va pas créer des problèmes aux diplomates américains. Nous n'allons expulser personne, nous n'allons pas tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable, a souligné M. Poutine dans un communiqué. Vladimir Poutine a également rejeté la proposition de M. Lavrov qui prônait le principe de réciprocité tout en soulignant que la Russie se réserve toutefois le droit de prendre des mesures de rétorsion et restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique de Donald Trump. Dans le camp de Donald Trump, justement, Kellyanne Conway, une proche conseillère du président élu des États-Unis, a estimé que l'objectif du président sortant Barack Obama, à travers ses sanctions contre la Russie, était de coincer son successeur à la Maison-Blanche.
Des affrontements entre les forces du régime syrien et des groupes rebelles ont éclaté ce vendredi près de Damas, malgré un cessez-le-feu instauré depuis minuit en Syrie. Le point sur la situation avec Dili Diko.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme en signalant une violation du cessez-le-feu dans la région de Wadi Barada, au nord-ouest de la capitale syrienne. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui, mais dans l'immédiat, il est impossible de savoir qui des belligérants a lancé les hostilités, les deux parties s'accusant mutuellement. Selon le directeur de l'Observatoire, Rami Abdelrahman, les affrontements sont sporadiques et s'accompagnent de frappes aériennes menées par des hélicoptères contre des positions de groupes rebelles et de Fateh al-Sham. Fateh al-Sham est l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, autrefois appelée Front al-Nusra. Les régions de Wadi Barada, mais aussi Ain el-Fijeh, sont des zones stratégiques. Situées à 15 km au nord-ouest de la capitale, elles constituent la principale source d'eau pour Damas. 4 millions de personnes dans la capitale syrienne et dans ses environs sont privées d'eau depuis le 22 décembre, selon l'ONU.
En France, les autorités prennent la menace terroriste très au sérieux en cette fin d'année. Près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour le réveillon du nouvel an. Les autorités ont également mis en place de nouveaux dispositifs de protection. Des blocs de béton ont par exemple été érigés dans certains espaces publics pour faire face à la menace djihadiste. Un attentat au camion Bélier avait fait 86 morts à Nice, dans le sud-est de la France, le soir de la fête nationale du 14 juillet cet été.
Et des centaines de camionneurs polonais ont fait résonner leurs klaxons de leurs poids lourds à travers tout le pays au moment où des obsèques du conducteur du camion utilisé pour l'attentat de Berlin qui a fait 12 morts le 19 décembre dernier. Pour moi, c'est un héros parce qu'il s'est battu jusqu'à la fin, a dit un des camionneurs présents aux obsèques auxquelles ont également participé plusieurs autorités polonaises et allemandes.
En Turquie, une commission parlementaire a approuvé un projet de réforme constitutionnelle qui vise à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Approuvé en commission après 17 heures de débat, le projet du président Erdogan doit encore être approuvé par le Parlement avant d'être soumis à référendum en avril ou en mai prochain.
La police brésilienne interrogeait toujours ce vendredi l'épouse de l'ambassadeur grec portée disparue depuis lundi et après la découverte d'un corps carbonisé dans la voiture louée par la mission diplomatique pour des vacances. Selon cette source proche de l'enquête citée par l'AFP, Françoise Amiridis, épouse d'origine brésilienne de l'ambassadeur grec, a déjà été interrogée hier et selon les médias brésiliens, c'est la femme de l'ambassadeur qui a signalé sa disparition lundi.
La police ukrainienne a arrêté un individu de 31 ans, accusé d'avoir tué une femme et sa fille. Il est aussi soupçonné de préparer un attentat similaire à celui de Berlin qui avait fait 12 morts dans un marché de Noël le 19 décembre dernier. Après avoir commis son forfait, il se serait enfui avec un camion volé, puis caché dans une maison abandonnée avant d'être arrêté, selon la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Voilà donc tout de suite la Minute Éco avec Tatiana Mosso.
Investissement, la Chine continue d'avancer ses pions en Afrique. Le porte-parole du ministère chinois du commerce, Su Jinwen, a annoncé que les investissements directs non financiers sur le continent africain ont augmenté de 31% au cours des 10 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2015. Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, le nouveau patron des patrons ivoiriens, veut créer des champions nationaux. Cela passe notamment par une participation accrue des entreprises locales au grand marché. À 61 ans, le PDG de la Société ivoirienne de production animale et des moulins de Côte d'Ivoire préside la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire depuis début décembre. Au Tchad, fin 2015, déjà le gouvernement avait annoncé des mesures d'austérité dont le gel du recrutement des fonctionnaires. C'est donc sans surprise que 16 mesures de réforme d'urgence ont été adoptées en Conseil des ministres extraordinaire dans le but de réduire les charges, d'augmenter les recettes et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Mais même si elles étaient attendues, ces mesures font grincer bien des dents.
Place au sport à présent avec vous, Timothée Donangmaï. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
Alors, les fans de foot européens vont suivre de très près le championnat anglais qui aura lieu ce week-end avec les 19e et 20e journées.
Et oui, Anastasie, 13 équipes de la Premier League vont disputer deux matchs en moins de 48 heures. C'est un cas unique dans le football mondial de haut niveau. Chelsea tentera à cette occasion d'engranger sa 13e victoire consécutive cette saison et surtout de distancer Liverpool ou Manchester City dans la course au titre. Le bilan des Blues depuis trois mois les place en bonne trajectoire pour égaler le record historique établi par Arsenal durant la saison 2001-2002. Mais les Blues ont déjà à l'esprit le difficile derby londonien de mercredi contre Tottenham. Liverpool et Manchester City s'affrontent samedi à Anfield Road. Victoire obligatoire pour les deux clubs s'ils veulent croire au titre.
Et Cristiano Ronaldo, quant à lui, résiste à l'attrait de l'Eldorado chinois.
Et oui, Jorge Mendes, l'agent du Ballon d'Or 2016, a affirmé que son protégé a refusé une offre hallucinante de près de 300 millions d'euros, soit un salaire annuel de 100 millions d'euros d'un club chinois qu'il n'a pas nommé. C'était dans un entretien accordé jeudi soir à Sky Sport Italia. CR7, vainqueur de la Ligue des Champions cette saison avec le Real et de l'Euro 2016 avec le Portugal en juillet, a estimé apparemment que l'argent ne représente pas tout. La Chine, qui rêve d'être au sommet du football mondial d'ici 2050, tente d'attirer les plus grandes stars du ballon rond pour des transferts de plusieurs dizaines de millions d'euros, un appétit qui excède largement le cadre sportif pour devenir une affaire d'État.
Les arbitres sont aussi intéressés par cette boulimie chinoise, Tim.
Oui, c'est le cas de Mark Clattenburg qui officie depuis 12 ans en Premier League, mais qui ne cracherait pas sur un transfert en Chine. Pour l'heure, il n'y a pas d'offre, a-t-il dit, notant que la Chine doit associer à son plan de football de haut niveau celui d'un arbitrage de niveau similaire.
Et en tennis, bonne nouvelle pour la numéro 2 mondiale, Serena Williams.
La tenniswoman américaine va convoler un juste noce avec Alexis Ohanian, l'un des fondateurs du site internet et communautaire Reddit. C'est elle-même qui l'a annoncé jeudi sous la forme d'un poème sur son compte Reddit. Âgée de 35 ans, la cadette de Sir Williams a remporté dans sa carrière 71 titres WTA, dont 22 en Grand Chelem. Le dernier, c'était à Wimbledon l'été dernier. Elle a accumulé plus de 81 millions de dollars en gains et primes de victoire depuis ses débuts professionnels en 1997.
Longue vie aux mariés, merci Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Anastasie Tudiech et Abdourahmane Dia avec vous. Abdourahmane, place au dossier du jour.
Et on démarre par l'actualité ici aux États-Unis. Les accusations par Washington de piratage et d'ingérence dans la présidentielle américaine enveniment les relations entre Washington et Moscou. Le président Obama a annoncé hier de nouvelles sanctions contre la Russie pour justifier l'expulsion de 35 membres des services russes du renseignement. La Maison-Blanche s'est basée sur un rapport du FBI. Enquête Steve Bragona, récit Salwa Jafari.
Le cyberespace est un champ de bataille en constante mutation. La guerre y est sans visage et l'on a du mal à identifier son agresseur. Dimitri Alperovitch est cofondateur de CrowdStrike, une société de cybersécurité. Le logiciel de sa société scannait la toile à la recherche de hackers au Comité national démocrate pendant la campagne électorale.
Tout d'un coup, ça s'est illuminé comme un sapin de Noël, nous révélant qu'il y a eu deux intrusions par des acteurs indépendants à l'intérieur de la DNC. Le système a identifié les intrus comme appartenant à un groupe russe ayant des liens avec le Kremlin.
Arriver à cette conclusion relève d'une investigation policière, nous explique-t-il.
C'est comme si vous arriviez sur une scène de crime, vous trouvez des empreintes digitales que vous voulez mettre dans votre base de données pour vérifier si elles correspondent à d'autres empreintes que vous avez collectées dans le passé lors d'un braquage de banque.
CrowdStrike a trouvé un code qui ne lui est pas étranger, un code qui a fait surface lors d'anciennes cyberattaques.
Une fois que vous utilisez une arme, vous ne voulez pas l'utiliser qu'une fois. La tentation est trop grande. C'est là le point faible des hackers.
L'arme est un indice, le mode du crime en est un autre.
Rien ne disparaît sur la toile. Vous pouvez donc remonter le temps, 10 ans auparavant, des milliers d'attaques.
CrowdStrike a cherché des modes d'opération similaires dans des hacks précédents. Trouver des indices et l'identité des hackers peut se révéler très facile, nous explique Nick Rossman de la société de cybersécurité Firearm.
Ce que nous constatons avec l'activité de la Russie, nous avons l'impression que les logiciels malveillants sont compilés dans des fuseaux horaires qui sont semblables à ceux de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. C'est la même chose avec les cyberattaques chinoises. Ils sont généralement actifs entre 9h et 5h.
Mais les experts nous disent que l'horodatage n'est pas une preuve accablante. Les codes de piratage peuvent être copiés. Ce n'est en aucun cas un ADN sur une scène de crime. Les preuves sont largement circonstancielles.
Nous ne pouvons pas monter un dossier en justice en se basant uniquement sur cela, mais nous croyons que plusieurs preuves peuvent constituer un argument.
Le fait est que l'anonymat du cyberespace protège les cybercriminels. Les experts s'accordent à dire que le monde obscur de l'espionnage est encore difficile à pénétrer.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, 159 rapatriés de la Libye sont arrivés hier en provenance de Tripoli. Parmi eux, 32 femmes, 3 enfants seuls, 3 malades, dont un blessé par balle. Ils ont été accueillis par les autorités maliennes à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, au centre d'accueil des rapatriés de la protection civile précisément. Kassim Traoré.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. Parmi eux, 3 malades, dont un atteint par balle.
Je me nomme Souleymane Mohamed. Je suis de Bourem. Je suis allé en Libye travailler pendant plus de 2 ans. Et un soir, des gens m'ont arrêté et m'ont fouillé. Ils n'ont pas eu d'argent et ils m'ont fait sortir de leur véhicule. Ils m'ont tiré une balle à l'épaule. La balle est restée. Et j'avais voulu faire une opération, mais je n'ai pas pu. Et c'est pourquoi je suis revenu au Mali.
45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Berkay sain et sauf, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Moi, c'est M. Kassambaka Omar, je suis un Malien. Je suis parti en Libye, précisément à Tripoli, pour me défendre, parce qu'il n'y avait pas assez de moyens au pays. Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout s'y est. J'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Ce soir, ici chez moi, ici à Bamako, et Dieu merci.
Les 32 femmes et les 3 enfants non accompagnés ont bénéficié d'un traitement spécial. Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
Bakari, tu peux appeler tes parents, et bien ils sortent, ils vont t'attraper, ils ne peuvent pas travailler. C'est seulement dit, nous, on est arrivé ici aujourd'hui, c'est seulement dit, ça nous. C'est un grand plaisir pour nous. Aventure encore, on met fin là-dessus. La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement dit, quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako, à Jutet, je pense à derrière, ceux qui sont là-bas. Moi, aujourd'hui, je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, sincèrement dit, je pense beaucoup à eux. Je pense beaucoup à eux. En prison, on a fait 4 mois en prison. Manger, ça ne nous suffit pas.
Au centre d'accueil des rapatriés, situé dans la cour de la protection civile à Sogonico, le dispositif d'accueil était fonctionnel.
C'est le commandant Bagardao, directeur régional de la protection civile du district de Bamako. On va les vacciner tous, et ensuite, les 3 qui sont malades seront pris en charge pour leur traitement. Et ensuite, on est en train de les répertorier, de les recenser pour voir s'ils doivent rester et d'où doivent aller dans les régions. Et si on finit avec leur phase, on va leur donner à manger. Ils vont bien manger et ensuite, la salle est prête pour qu'ils puissent dormir et se reposer dès demain. Et s'ils doivent rentrer dans les régions, vont rentrer et s'ils resteront à Bamako, ils vont regagner leur famille respective.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée-Bissau, le 4e contingent nigérian de l'ECOMIB va quitter le pays dans les prochains jours et sera remplacé par un autre. À cet effet, le chef de l'État, José Mario Vaz, a offert un dîner à ses soldats de la CEDEAO, entourés par les autorités militaires et civiles de Guinée-Bissau. Les explications de Noah Mankali.
Prenant la parole au nom du chef de l'État José Mario Vaz, Tierno Diallo, conseiller du président José Mario Vaz, a souligné les aspects marquants de cette force d'alerte de la CEDEAO en Guinée-Bissau.
Nous tenons à souligner des aspects marquants de cette mission de l'ECOMIB en Guinée-Bissau. Depuis l'arrivée de l'ECOMIB en Guinée-Bissau, il n'y a jamais été signalé quelque comportement répréhensible que ce soit, ni l'utilisation de la force envers la population, ni des attitudes déplacées envers les femmes. Nous savons qu'ailleurs, les choses se passent autrement. Votre comportement est caractérisé par la discipline, la discrétion, le respect de la population et des institutions de l'État, l'efficacité et le professionnalisme dont vous faites preuve. Vous honore, chers frères, honore notre organisation sous-régionale, honore nos États et par ce biais toute l'Afrique.
Ce responsable a reconnu que ce 4e contingent nigérien a parfaitement rempli sa mission.
Ceux qui partent et ceux qui vont partir peuvent partir avec fierté et sentiment d'une mission bien accomplie. À tous, une bonne et heureuse année et aux contingents qui partent, un bon voyage.
Cependant, le vice-représentant de la commission de la CEDEAO dans le pays, Oi Emmanuel, a remercié ce quatrième contingent nigérien pour avoir servi l'idéal de paix en Guinée-Bissau.
Merci à vous tous pour avoir accompli votre tâche avec dévouement, pour avoir servi la Guinée-Bissau. Pendant ces 12 mois, ils ont travaillé pour servir l'idéal de paix et aujourd'hui, ils s'apprêtent à céder la place au cinquième contingent du Nigeria qui arrivera très bientôt.
Enfin, Emmanuel a reconnu l'appui des autorités locales pour rendre facile la mission de cette force déployée en Guinée-Bissau.
Tout au long de cette année où ils ont travaillé à cet idéal, ce contingent a bénéficié de l'appui des autorités bissau-guinéennes et au premier rang desquelles l'appui de son Excellence le Président de la République.
On rappelle que la force d'attente de la CEDEAO a été déployée en Guinée-Bissau juste après le coup d'état militaire dirigé par le chef d'état-major général des forces armées, d'alors le lieutenant-général Antonio Ndiaye, contre le régime de Carlos Gomes Junior, exilé au Portugal. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
« 2016 aura été l'année de tous les changements au Bénin. Jamais auparavant un chef d'État n'aura connu autant de grognes sociales en moins d'un an. » Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adindé, revient sur cette année.
Le Bénin a connu un changement sur tous les plans en 2016. Cela a commencé le 6 avril par l'élection de Patrice Talon, opérateur économique, resté des années en exil parce que soupçonné d'avoir voulu porter atteinte à la vie de l'ancien président Yahi Bouni. Le chemin ayant conduit à l'élection de cet homme d'affaires a été jalonné de bien de difficultés. Indisponibilité des cartes d'électeurs, report de l'élection présidentielle, campagne électorale sous fond de tension. Mais contre toute attente, l'homme d'affaires a été porté au pinacle de la gestion de la chose publique. Et les réalités du pouvoir se sont imposées à l'homme. En moins d'un an de gestion, certains sont arrivés à regretter le fait d'avoir confié leur vote à Patrice Talon.
Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Le poids est complètement tombé. On nous parle de 462 milliards de dettes. Ça, c'est la totale, ça. C'est faux. L'audit ne doit pas être un moyen de chantage politique.
Pour l'aspect en gouvernance, Joël Ataï-Guedegbe, le refus de communiquer opté par le gouvernement reste une difficulté majeure.
Et ce qui aura vraiment frappé, c'est à la limite son manque d'ouverture à l'information des citoyens. Et bien que des décisions aient été régulièrement annoncées et prises, tantôt de manière surprenante, tantôt même de manière attendue. D'où le paradoxe aussi de cette gouvernance qui est caractérisée par une volonté de rupture avec le passé, mais qui ne met pas suffisamment en exergue les sanctions dont sont l'objet et ceux qui ont été coupables de ces actes-là.
Mais fort heureusement, peut-être, le gouvernement a saisi le dernier mois de l'année 2016 pour présenter un plan d'action, une feuille de route pouvant permettre de remettre le pays sur le rail du développement. Le ministre d'État chargé de l'action gouvernementale, Ablaye Biotchane, en parle ici.
Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel, où nous commençons par la réforme de notre système partisan. Et enfin, sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base.
Le chef de l'État mesure d'ailleurs la taille du défi qui lui incombe et le jour de la présentation du plan d'action de son gouvernement, il a réitéré son intention de contribuer efficacement au développement du Bénin.
Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini, sera mis en œuvre sans relâche parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement. Nous les avons évalué et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi.
Si 2016 a été une année de grands bouleversements et de changements, 2017 n'en fera pas défection puisque dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a rappelé aux Béninois la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre ensemble la croissance voulue. Et c'est loin d'être le discours qu'attendaient les Béninois qui crient famine, chômage et bien d'autres encore. De Cotonou, Ginette Fleur Adindé pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Georges Lévenard-Sagnon était à la mise en onde et Martin Corsios à la console. Présentation Anastasie Toudièche et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, le rendez-vous c'est sur notre page Facebook, la page de VOA Afrique et sur notre site internet voafrique.com. Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.